Parole parlez-nous. 54. La main cachée numéro 2. Brian Kozurek. Une vie cachée 6 octobre 55-37. Dieu dit à Moïse, fais un pot d'or. Alléluia. Et mets cette main là-dedans. Et rappelez-vous que lorsqu'un croyant entrait là, cette main Néhémie s'épuisait jamais. Elle était toujours fraîche, nouvelle et délicieuse au fur et à mesure que les jours passaient, au fur et à mesure que les années passaient. Et n'importe quel homme qui vient à Christ, qui se cache derrière qui le voile tombe ester dans la présence du Dieu Tout-Puissant, il mange la manne jour et nuit, heure après heure. Elle ester toujours aussi délicieuse qu'elle l'était le premier jour lorsqu'on lui a parlé de son âme. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ester d'entrer quelque part où se trouvent ces choses, non pas nous tenir loin et prétendre, ou plutôt pas nous tenir loin et agir, mais entrer effectivement là à l'intérieur. Amen. Autrefois, l'homme. 38 Maintenant souvenez-vous, seuls les croyants, seuls les élus entrent là, ceux que Dieu a choisis. Je crois que c'est ester dans Apocalypse 2 qu'il ester dit, celui qui vaincra. Donc, cela est ester promis au vainqueur. Vous dites, j'ai vaincu la cigarette. Ce n'ester pas ce dont il parle. Il y a beaucoup plus de choses qui vont avec le christianisme, en dehors du fait de Néhémie pas fumer la cigarette ou Néhémie pas boire le whisky. Celui qui vaincra héritera de toutes choses et il sera mon fils. Je serai son Dieu et, écoutez, je lui donnerai de la main cachée. Amen. Je le cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le monde qui ester à l'extérieur du rideau Néhémie sait rien. Alléluia. Quand bien même il mange la manne, ils n'en savent rien cependant. Je lui donnerai de la main cachée. Je lui donnerai un caillou avec son nom inscrit dessus. Vous comprenez ce que je veux dire, l'entrée dans l'adoption ou le lieu caché en Dieu. Apocalypse 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans. Maintenant, nous devons avant tout nous poser la question de savoir qui ester sur le trône, parce que nous voulons savoir à qui appartient le livre. Mais avant de répondre à cela, aviez-vous remarqué qu'il n'ester pas dit que les paroles étaient en dehors du livre, mais plutôt écrites en dedans? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans. Donc il a vu le livre et l'écriture en dedans du livre, en d'autres termes, à l'intérieur du livre, et pas à l'extérieur. Et maintenant, il dit, et nous savons que le mot ester est une conjonction qui lie deux sujets. Et en dehors, c'est les deux sept sceaux. Donc nous voyons que les sceaux Néhémie sont pas à l'intérieur du livre comme s'il y a un sceau avant chaque chapitre du livre. Non, pas du tout. Les sceaux sont à l'extérieur du livre. Donc, le livre Néhémie peut pas être ouvert avant que tous les sceaux aient été brisés, parce que c'est ester un manuscrit et il a été enroulé comme ceci. Et les sceaux scellaient le livre fermé. Et avant que tous les sceaux Néhémie soient arrachés du livre, vous Néhémie pouvez pas l'ouvrir de toutes les façons. Donc nous voyons alors que l'agneau qui s'avance arrache les sceaux et maintenant après que les sceaux aient été détachés ou enlevés, le livre devient un livre ouvert. Maintenant, s'ester ce qui s'ester passé exactement. Et pour qu'un homme renie ce que dit l'écriture, soit il Néhémie sait pas comment lire, soit il Néhémie peut pas lire parce qu'il ester spirituellement aveugle, comme nous le voyons dans Esaïe 29. Esaïe 29, 6 ester de l'Éternel des armées, que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. 7 Et, comme il en ester d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, Elle est sa forteresse, et qu'il la sert Rouen de près. Maintenant, le mot Ariel ici est Esther, un mot qui veut dire le lion de Dieu. Et nous savons qu'au temps de la fin, il vient avec une voix forte comme lorsque rugit un lion. Apocalypse 10, 1-3. Maintenant nous savons que Dieu lui-même compare le rugissement du lion à sa propre voix. Ce qui est une déclaration prophétique. Comme nous le voyons dans le livre d'Amos 3, 7-8. Esaïe 29, 7. Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. De tous ceux qui l'attaqueront, elle est sa forteresse, et qui la serreront de près. 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Dans le message La demeure future, frère Branham parle des filles de Sion et a leur dit, souvenez-vous que Esther toujours l'épouse. Maintenant, le nom Ariel Esther, un autre nom pour Jérusalem, mais comme ceci parle d'une attaque contre le mont Sion. Néhémie parle pas d'une attaque contre la ville de Jérusalem, mais ça parle de celle dont le lieu d'habitation sera la nouvelle Jérusalem. Donc nous devons savoir de quel mont s'agit-il ici. Ce passage Néhémie fait pas référence au Seigneur lui-même qui a Esther attaqué, mais il fait référence à celle qui a pris son nom. Ceci doit avoir un rapport avec son épouse. Parce que dans la demeure future, frère Branham a dit que le mont Sion s'Esther la nouvelle Jérusalem et le mont Sion représente la demeure de l'épouse. Et il a dit que les filles de Sion s'Esther l'épouse. Et ici, nous voyons l'Écriture nous prévenir de ce qui arrivera à ceux qui sont trouvés en train de combattre contre l'épouse élue. Donc de quoi parle ça alors? Il nous parle que ceux qui semblent être une réalité à ceux qui s'opposent à la volonté du mont Sion, n'est-ce qu'une illusion? Ce n'est-ce pas du tout vrai? Maintenant combien savent ce que c'est qu'un mirage? Un mirage, c'est simplement une illusion. Le dictionnaire Webster nous dit qu'une illusion c'est pareil qu'une hallucination. Et il nous dit aussi qu'une hallucination c'est la même chose qu'une illusion, ou un mirage. Et les mirages sont dangereux, parce qu'ils vous donnent un faux espoir. Mais vous Néhémie pouvez pas satisfaire votre soif en buvant à partir d'un mirage. Pas plus que vous Néhémie pourriez vous réchauffer à partir d'une photo de feu. Par conséquent, une illusion s'estère, une fausse idée ou une fausse conception, une croyance ou une opinion qui n'estère pas en accord avec les faits. S'estère une tromperie qui n'estère pas vraie, s'estère une apparence trompeuse ou une image. S'estère aussi une fausse perception, ou une fausse conception, ou l'interprétation de ce qu'on voit. Une image trompeuse qui résulte en une fausse impression. Donc nous voyons que ces pensées sont une fausse interprétation. Et en outre, frère Branham les a appelées une illusion, ce qui signifie la parole qui est Esther interprétée de manière à ce qu'elle apparaisse différente de ce qu'elle est réellement. S'Esther comme un mirage dans le désert que vous pensez voir, mais qui n'estère pas réellement là. Et donc ces gens qui combattent contre le mont Sion vivent dans une illusion. Ils pensent qu'ils mangent de l'arbre de vie, mais la réalité n'estère pas celle-là. Ils combattent contre ceux qui mangent de l'arbre de vie, mais Néhémie sont que comme ceux qui rêvent qu'ils sont en train de manger. Mais quand ils se réveillent ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas réellement mangé. Jude nous a prévenu que ces imposteurs seraient dans le message, tout juste à côté de nous, mangeant à la même table. Mais ils pensent qu'ils mangent la nourriture autant convenable, alors qu'ils se trompent simplement eux-mêmes. Ils n'y trompent personne si ce n'est eux-mêmes. Donc ils pensent qu'ils mangent, mais au contraire, ils crèvent de faim. Vous voyez ce dont les gens n'y se rendent pas compte? C'est-à-dire que quand vous entrez dans un jeûne sévère, vous êtes à un point où les trois premiers jours votre faim devient douloureuse, et là vous êtes très conscient que vous n'avez mis mangez pas. Mais si votre jeûne est assez long, vous passez dans un état euphorique dans lequel vous n'avez aucun désir de manger. Dans le journal de la science de la santé, nous lisons, les liens des évidences anecdotiques de la phase initiale de jeûne avec sensation de bien-être et douce euphorie. Ces sensations ont souvent été attribuées à ketosie, la production du kétone, des corps qui peuvent remplacer le glucose comme une source d'énergie pour le cerveau. Un de ces corps du kétone, l'hydroxybutyrate, BHB, ester un isomère de la drogue notoire de l'abus de la drogue telle que le liquide d'extase. Cette drogue mime l'hydroxybutyrate, BHB, qui ester produit par le corps en jeûnant. Les utilisateurs lourds, d'extase, une drogue synthétique qui ester structurellement semblable à la méthamphétamine et la mescaline de l'hallucinogène, peuvent risquer des dégâts du cerveau, que cela reste longtemps très actif. Remarquez que cette drogue ester aussi une drogue hallucinogène. Donc vous avez une euphorie et une hallucination, résultant en dégâts du cerveau. Ce n'est pas étonnant que frère Branham ait fait la déclaration selon laquelle ils ont besoin d'un baptême de leur cerveau. Alors dans le message la démonologie numéro 2 domaine religieux 09.06-53p88. Frère Branham nous dit comment il avait reçu des lettres l'accusant d'être possédé des démons à cause de son don. Il a dit démonologie domaine religieux 9 juin 1953. Connersville, in USA 178. Alors les lettres sont arrivées. Ça disait, frère Branham, c'est-à-dire la preuve que vous n'êtes qu'un médium. Il disait c'est-à-dire la preuve. Regardez, vous avez dit à cette femme où elle allait retrouver. Regardez celle-ci, cette femme, 179 j'ai dit, attendez un instant. J'ai rédigé une lettre officielle, excusez-moi, que j'ai envoyée aux gens. J'ai dit comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs. J'ai dit, au lieu de baptiser votre corps, c'est-à-dire votre cerveau qui aurait besoin d'être baptisé. C'est-à-dire exact. Vous n'aimez vous arrêtez pas pour réfléchir sur les choses. Vous n'essayez pas d'y regarder de près. 180 c'est-à-dire comme ça qu'ils ont fait, aux autres époques. Ils voyaient Jésus. Ils savaient qu'ils pouvaient. Qu'ils connaissaient les secrets de leur cœur. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Comme ça. Et ils ont dit, c'est-à-dire le prince des démons. C'est-à-dire Belzébul, le meilleur diseur de bonne aventure du monde. Ils n'aimaient se sont pas arrêtés pour essayer de comprendre. Pour voir qu'il s'agissait là du Fils de Dieu. Ils n'étaient pas assez spirituels pour le savoir. C'est-à-dire ça. Il passe par-dessus la chose. Israël en Égypte -25 mars 1953 Jeffersonville, in, USA 104. Bien. Ils disent, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Gloire à Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Bien. Alors le Saint-Esprit s'est trompé lorsqu'il disait qu'il avait placé certains dans l'Église comme enseignants. Dieu les a placés dans l'Église, comme enseignants. Cela règle la question. Pourquoi y placerait-il des enseignants? Si le Saint-Esprit lui-même devait donner tout l'enseignement? Voyez-vous? Très bien. Voyez-vous? 105 ce dont les gens ont besoin c'est-à-dire d'un baptême de cerveau, en plus du baptême d'eau. C'est-à-dire juste. Très bien. Excusez cette expression tranchante, mais j'aimerais vraiment la laisser pénétrer. Nous voulons un réveil. Et, frère, il faut remuer les choses. Avant de pouvoir le faire, il faut chasser Satan. N'aimez faites pas des manières avec lui. Soyez maître chez vous et restez ferme. J'ai dû le combattre. Partout dans le monde, et tout autre chrétien qui a jamais soutenu la cause de Dieu, doit se battre avec lui. Mais si vous savez où vous vous tenez, et que ce que vous savez est la vérité, que c'est ainsi dit le Seigneur, vous pouvez vous y tenir. Et donc nous avons aussi nos batailles avec ces mêmes démons d'incrédulité. Et la plupart deviennent sous la forme des soi-disant prédicateurs, comme le diable est venu à Jésus en citant les Écritures. Donc, nous voyons alors que ceux qui combattent contre l'épouse, bien qu'ils pensent qu'ils sont en train de festoyer, ils n'y le font que dans une vision nocturne. En d'autres termes, dans leurs rêves et par la suite, ils n'ont aucune nourriture, et ils sentent qu'ils sont sur quelque chose, parce qu'ils entrent dans un état euphorique qui est une sensation de grand bonheur ou de bien-être. Donc ils pensent qu'ils sont bons. Et en effet, ils se sentent justifiés parce qu'ils se sentent bien. Mais Néhémie ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'endommager leur cerveau, et après un temps, ils deviennent catatoniques et dans cet état, ils deviennent léthargiques et immobiles. Si quelqu'un les met dans une certaine place, ils restent là. Si quelqu'un leur montre de faire une certaine chose, ils entrent dans des mouvements. Et combien d'églises voyons-nous aujourd'hui où les gens entrent dans des mouvements juste parce qu'ils n'aiment mange pas de l'arbre de vie, mais ils sont sans vie et entrent dans des mouvements. Remarquez que ces hommes vivent dans une illusion. Ils mangent du pain de vie mais ce n'est que dans leur rêve. Et quand ils sortent de ce rêve, ils sont toujours vides, parce qu'ils vivent dans une illusion, une fausse vision de la séduction. Et qu'est-ce qui a causé cela? Leurs propres opinions ont plus d'estime pour eux que la parole de Dieu. Remarquez qu'au verset 10-12, il nous est dit qu'ils seront dans un sommeil, et c'est le Seigneur qui aura produit ce sommeil profond et leurs rêves Néhémie produiront rien pour eux. Maintenant, ces faux prédicateurs, loin d'orgueil et d'arrogance, s'introduisent avec leurs propres opinions et changent le message en une illusion pour beaucoup, et cela Néhémie produit qu'une illusion à leur peuple. Remarquez ce que Esaïe continue à dire au verset 9. Esaïe 29. 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. La Bible anglaise dit, un profond sommeil. Trad. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je n'ai mis le puits, car il est cacheté ou scellé. 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui n'a mis ses pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je n'ai mis ses pas lire. 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple, par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins, pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Et pendant que nous continuons à lire dans Esaïe 29, prenons le verset 16. Nous entendons Dieu réprimander ces gens en disant, quelle perversité est-ce la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Il Néhémie m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Écoutez, frère, je suis très bien conscient de mes mots et du choix que je fais de ces mots. Et je sais aussi comment Dieu œuvre dans mon ministère. Tout vrai ministre de la parole. Quand Dieu place des paroles dans sa bouche et que vous, Néhémie, saviez pas que vous alliez les prononcer, mais elles sont simplement sorties, et la prochaine chose que vous savez, vous les voyez, exactement dans les Écritures, concordèrent parfaitement ensemble pour produire la vérité. Alors Dieu dit dans Esaïe 29, 17 encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. 19 Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. 20 Car le violent Néhémie sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Donc je n'ai pas besoin de me concentrer sur le moqueur et l'homme qui fait la mauvaise bouche. Dieu le mettra à sa place. Écoutez, quand quelqu'un vous maudit, Néhémie succombez pas à leur jeu. Ils essaient simplement de vous impliquer dans leur bagarre. Esther là où son sang a commis son erreur. Il a été impliqué dans une bagarre que Dieu n'avait pas ordonnée. En d'autres termes, Dieu Néhémie l'avait pas envoyé pour combattre cette bataille, comme il l'avait envoyé pour combattre d'autres batailles. Et beaucoup de fois que ces moqueurs se réveilleront le soir pour comploter et planifier comment ils pourront vous amener jusqu'à leur niveau, vous, Néhémie, le faites pas. Restez ferme avec ce que vous croyez, mais quand ils commenceront à envoyer insulte après insulte, ils essaient simplement de vous amener jusqu'à leur niveau dégoûtant. Alors, Néhémie, le faites pas. Si vous les laissez passer, alors Dieu combattra pour vous et bientôt, ils montreront à tout le monde de quel esprit ils sont possédés. Dieu continue à parler à Esaïe au sujet de ces hommes impies. Au verset 21, ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. 22 Esther pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham, maintenant Jacob Néhémie rougira plus, maintenant son visage Néhémie pâlira plus. 23 Car, lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. 24 Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Alors, continuons simplement à prier pour ces gens, car comme Jésus l'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par conséquent, comme nous avons vu dans Esaïe 29 et également dans Apocalypse 5 alors que nous prenons le verset 1, sans se soucier si quelqu'un peut ou Néhémie pâlir, il est Esther toutefois responsable de croire l'écriture et l'interprétation du prophète de Dieu de ce verset. Maintenant, verset 2 et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est Esther digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux. 3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, Néhémie put ouvrir le livre ni le regarder. 4 Et je pleurais beaucoup de ce que personne Néhémie fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 5 L'un des vieillards me dit, Néhémie pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Maintenant, arrêtons-nous juste ici pendant un moment et lisons de nouveau ceci. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors, que venons-nous de lire là? Il a dit que le livre était ouvert. Comment? En brisant les sceaux, qu'il y ait le livre ensemble, n'est-ce pas? Donc, le livre Néhémie peut pas être ouvert si les sceaux Néhémie sont pas ouverts. Maintenant, Vous, Néhémie, ne pouvez pas l'avoir de deux manières. Et je sais qu'il y a des frères dans ce message, qui Néhémie comprennent pas ceci. Je Néhémie les condamne pas parce qu'ils Néhémie le comprennent pas. Ils sont toujours mes frères. Mais ils manquent beaucoup parce que si on peut simplement lire l'écriture, vous saurez que le livre n'Esther pas ouvert jusqu'à l'ouverture des sceaux. Ensuite le livre Esther ouvert. Maintenant, continuons. 6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 Il vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, à ce point, qui détient le livre? Vous dites, c'est Esther l'agneau qui détient maintenant le livre. Très bien. N'est-ce pas? Alors, qui détenait le livre avant que l'agneau l'ait pris? De quelle main l'agneau l'a-t-il pris? De celui qui est Esther assis sur le trône. N'est-ce pas? Et qui était-ce? C'était Dieu, le juge suprême. 8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les prières des saints? 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es indigne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Maintenant, écoutez, il a ouvert le livre en brisant les sceaux. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Quand Esther ce qu'il a fait? Oh! Néhémie, discutons pas sur les années. Je Néhémie parle pas de 1963, ou 1964, ou 1965. Que dit la Bible? Elle nous dit que celui qui a été immolé l'a fait après qu'il fut ressuscité. Qu'importe alors la date? Non. Esther fini. Le livre reste ouvert. Lisez cela dans Apocalypse au chapitre 5. Écoutez, devant Dieu, ça importe peu. Parce que comme frère Branham nous l'a dit, l'agneau a été immolé devant Dieu avant les fondations du monde et pour Dieu, c'est une question réglée. Donc si les sceaux ont été ouverts cette année-ci ou une autre année, ça importe peu. Ils sont ouverts et un prophète confirmé nous a dit que tous les sept sceaux ont été ouverts. Or, j'ai 53 citations où frère Branham a dit que Dieu a ouvert les sept sceaux. Il n'a pas dit 6, mais 7. Dans son sermon, la semence n'hérite pas avec la balle, 18 février 1965. Prêché en 1965. Il a dit, paragraphe 127. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet. Le menu complet en 7 plats. Car tous les 7 sceaux sont ouverts et tout Esther prêt pour la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent recevoir. Maintenant, je sais que si frère Néhémie croit pas en la confirmation, parce qu'ils pensent qu'ils sont aussi confirmés, à tel point que cela me dit qu'ils Néhémie comprennent pas cette confirmation, qui Esther la présence de Dieu vous soutenant avec l'ainsi dit le Seigneur. Et ils n'ont pas la confirmation à part un seul homme, et cet homme c'est Esther William Branham. Et il a dit, tous les 7 sceaux sont ouverts, ce n'Esther pas tous les 6 sceaux, mais tous les 7 sceaux sont ouverts. L'union invisible de l'épouse de Christ, moins 25 novembre 1965. Shreveport. Là. USA paragraphe 146. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert les 7 sceaux du dernier message. L'avez-vous remarqué? Les 7 sceaux. Tous les mystères des 7 âges de l'Église étaient scellés de 7 sceaux. Les réformateurs n'eurent pas le temps de le faire à leur époque. Ils n'y vécurent pas assez longtemps. Mais cette révélation bénie des sept sceaux nous est ouverte en ces derniers jours, à partir d'une prophétie qui a vu son accomplissement en Arizona. Sester le lever du soleil, MA 8.04.965, Jeffersonville, In, USA paragraphe 12 et alors. Sester là qu'il m'a parlé, et m'a dit, les sept sceaux vont être ouverts. Les sept mystères, le mystère en sept points, de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la semence du serpent, toutes ces différentes questions, nous ont été entièrement révélées, non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces sept mystères, ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement, et qu'elle serait révélée au dernier jour. 13 Et alors, comme cela s'est élevé, nous en avons la photo sur la plaque dehors. Mais alors, j'ai aussi la photo ici même, si vous remarquez, telle que le magazine Life l'a publiée. Mais je me demande si mon auditoire visible, ici, a déjà vraiment regardé la photo. Voyez-vous, comme elle devrait être. Maintenant, soit il était obéissant à la vision céleste, soit il n'y était pas. Si le Seigneur l'avait renvoyé à Jeffersonville pour ouvrir les sept sceaux et qu'il n'y l'ait pas fait, alors il n'était pas un fils obéissant. Où êtes-vous alors? Vous voyez ceux qui disent que le septième sceau n'a pas été ouvert? Néhémie peuvent parler cela ensemble. Ils ont William Branham comme étant un serviteur désobéissant, ou ils ont un Dieu qui Néhémie peut pas produire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et dans son sermon, Christ est à révéler dans sa propre parole 22.08-65 MP, 117 William Branham a dit, il doit y avoir premièrement des yeux pour voir. Et alors quand cet âge de la est venu, il a ouvert les sept sceaux et a révélé la lumière du soir, en prenant tous les mystères qui ont été cachés à travers ces âges de l'Église. Et maintenant il les a révélés comme il a promis de le faire dans Apocalypse 10.1-7. Et voici, nous sommes aujourd'hui assis dans la parole. Et la parole nous est révélée par Jésus-Christ. Alors Sester, c'est la parole de Dieu. Mais en voici le problème. Je leur ai dit que le fait qu'ils sont ouverts Néhémie veut pas dire qu'ils sont tous accomplis. Parce que le septième Néhémie s'accomplit pas avant la seconde venue littérale où nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Et j'ai dit aux frères que tous sont ouverts, parce que vous Néhémie pouvez pas avoir le livre comme un livre ouvert, si tous les sceaux n'ont pas été ouverts. Mais cela Néhémie veut pas dire qu'ils sont tous révélés. Parce qu'après tout, le frère Branham a dit que le septième sceau n'avait rien à révéler. Questions et réponses sur les sceaux, M24.03.963, Jeffersonville, In, USA paragraphe 67 maintenant. Nous voyons la corruption qui s'installe dans le septième âge de l'Église. Mais le septième sceau Néhémie révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. Voyez? Sester qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique doit venir révéler ces choses. Voyez? Vous me suivez? L'Assemblée dit, Amen. Tirez des accents aigus. Très bien. Maintenant, remarquez comme chacun de ces sceaux. Le septième sceau, E24.03.963 Jeffersonville, In, USA, 77 donc. Le chapitre 8 révèle seulement la scène du septième sceau. Alors que rien d'autre n'est révélé. Là. Rien. Ce n'est pas révélé. Dans le septième sceau. Or ça. Ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. La révélation du septième sceau n'émet absolument aucun son. Et si seulement j'avais le temps. Je vais prendre quelques passages pour essayer de vous montrer. 78 Dale, commencement. Dans la Genèse, ce septième chape. Où? Ce septième sceau. Il y lit en Esther question. Depuis le tout début. Dans la Genèse, ce septième sceau. 79 Les sceaux ont pris forme progressivement. Vous vous souvenez? Ce matin, n'avons-nous pas montré comment ces choses se sont succédées? Et regardez bien. Ce soir, nous montrons la succession. Et vous voyez, quand on arrive au septième sceau, qu'il y a rupture de continuité. Frère Branham fait claquer ses doigts. Tirer des accents aigus. Oui. 80 Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin, et quand il est arrivé, il a parlé de tous les six des sceaux. Quand il en est arrivé au septième, il s'est arrêté. Voilà. Voyez. C'est quelque chose de très important. Alors, pourquoi il y eut-il un silence et que tout fut arrêté? Parce qu'il s'agit de la venue du Seigneur. Nous allons le rencontrer dans les airs. C'est un secret total. Et il n'est pas encore révélé. Donc il est ouvert, mais n'a pas été révélé, parce que Dieu révèle ou interprète sa parole en l'accomplissant. Et étant donné qu'il n'est mis c'est pas encore accompli, alors il n'est mis peut pas être interprété. Donc il est ouvert, parce que Christ est ses sceaux. Mais personne n'est mis, c'est le jour ou l'heure de l'avenue littérale. Le septième sceau, E24.03.963 Jeffersonville, In, USA, paragraphe 390. Avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont posé la question, et savez, quand nous avons comparé le passage de l'Écriture, ici, de Matthieu 24, avec les six sceaux, le septième sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait. Pas même les anges. Rien d'étonnant, ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il n'est mis s'estère rien passé à ce moment-là. Les anges Néhémie le savent pas. Personne Néhémie sait quand il va venir. Paragraphe 391. Mais il y aura les sept voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors, je crois, nous qui, si nous Néhémie le savons pas, et si nous, ce Néhémie sera pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où ces terres sont censées être révélées. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire, et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le sixième sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce septième sceau Néhémie peut pas être dévoilé au public, tant que cette heure-là Néhémie sera pas venue. La fête des trompettes, M9.07.964, Jeffersonville, In, USA paragraphe 147. Remarquez, la toute première trompette sonne, le sang, le feu, la grêle et tout, sont jetés ça et là sur la terre. Voyez? Qu'est-ce ce qu'il faisait? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle, voyez-vous, le ramenait dans sa patrie. Paragraphe 148 Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci, chaque trompette qui a sonné sous le sixième sceau. On va y venir dans quelques minutes, où on a eu le sceau, là. Toutes les trompettes ont sonné sous le sixième sceau. Paragraphe 149 En effet, au septième sceau, Il y a eu le silence. Personne n'y savait. C'était la mini-douleur où Christ allait venir, comme il nous l'a révélé. Paragraphe 150. Mais chaque trompette a sonné sous le sixième sceau, avec la persécution des Juifs. Maintenant, quand j'avais prêché sur la série Le Chef-d'œuvre, j'avais dit qu'il y aura un jour où nous devons commencer une série sur comprendre les sept sceaux, parce que beaucoup des gens ont une pensée erronée quand ils pensent que tous les sceaux se sont accomplis lorsqu'ils ont été ouverts. Ainsi, ils pensent aussi que le septième sceau fut achevé quand il fut ouvert. Ce n'est pas cela. Ils se sont aussi embrouillés avec certaines déclarations où frère Branham dit que le septième sceau ramène Christ sur la terre. Et ils pensent qu'étant donné que le septième sceau a été ouvert, qu'il, le corps littéral de Jésus-Christ est ramené sur la terre, alors que celui qui est descendu c'est l'ange d'Apocalypse 10, qui est l'ange de l'Alliance, lequel est Dieu lui-même, le Père de gloire. Il nous a dit que le septième sceau c'est Christ. Mais nous devons nous poser la question de ce qu'il veut dire en utilisant le mot Christ, étant donné que Christ signifie trois choses, celui qui oint, loin et l'onction. Mais nous devons savoir aussi que le septième sceau Néhémie concerne pas non seulement l'apparition, mais aussi la seconde venue. Et cela a un rapport avec le corps littéral du Fils de Dieu, qui descend nous rencontrer dans les airs. Mais tous les sept sont ouverts. Et comme je l'ai dit, nous avons 53 citations où frère Branham a dit que les sept sceaux ont été ouverts. Mais comme je l'ai signalé, le septième bien couvert n'a pas été révélé, parce qu'il n'y a rien à dire jusqu'à ce que Dieu l'interprète en l'accomplissant. Donc j'espère que vous pourriez voir que le livre Esther un rouleau avec sept sceaux à l'extérieur, et tous les sept devaient être ouverts pour que nous soyons capables d'avoir le livre ouvert. Mais bien que tous aient été ouverts, seulement six ont été révélés, parce que le septième était un silence total. Il n'y avait rien à révéler jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse. Le premier sceau, moins 18 mars 1963 Jeffersonville, in, USA, paragraphe 271. Maintenant remarquez, le Saint-Esprit, dans la révélation, est Christ, Sester, le Saint-Esprit, Sester Christ sous une autre forme. Sester vrai. 272 remarquez, Sester l'agneau qui a ouvert le livre, et l'agneau, Sester Christ. Et on n'y revoit plus Christ, à partir de là, mais on le revoit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. 273 Si vous aimeriez le lire, prenons Apocalypse 19, 1-6. Alors qui est-ce descendu dans Apocalypse 10? Ce n'était pas l'agneau, parce que l'agneau c'est le Fils de Dieu et il revient avec son épouse dans Apocalypse 19 comme frère Branham l'a dit. Donc qui est-ce descendu dans Apocalypse 10? C'est l'ange de l'Alliance. Dieu lui-même. La grande parousie de Christ. Le premier sceau 18.03-63p, 90 frère Branham lit Apocalypse 10. Un je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel, sur sa tête, et son visage était, le soleil, et ses pieds, comme des colonnes de feu. Maintenant, nous avons vu la même chose, qui était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Très bien. Il est appelé une colonne de feu, l'ange de l'Alliance et tout. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Maintenant, les sceaux avaient été brisés ici. Nous les brisons maintenant. Mais voici, la chose est ouverte. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria, une voix forte, comme rugit un lion, et quand il cria. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. Hola, la, la complète. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, Jean, allait écrire. Écrire quoi? Ce qu'ils ont dit. Et j'entendis du ciel une voix. Dieu. Qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres. Et Néhémie l'écrit pas. Néhémie les écrit pas. Voyez? Et l'ange, que je voyais debout sur la mer, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, la fois -29 décembre 1957 Jeffersonville, in, USA paragraphe 106. Or, Ilester, mort. Oui, mais Ilester ressuscité, et Ilester vivant ce soir. Paragraphe 107 Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep Néhémie porte pas de fruits. Il émonde les sarments, et ce sont les sarments qui portent le fruit. Il n'a de main que les miennes et les vôtres. Il n'a Dieu que les miens et les vôtres, parce qu'il est retourné à l'état esprit. 108 La colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. C'était l'ange de l'Alliance. Jésus-Christ. La Bible le dit. Tout lecteur de la Bible le sait. Et il a dit, je viens de Dieu. Je vais à Dieu. Et il est retourné à Dieu. Paragraphe 109 Vous dites, il est retourné à cette colonne de feu? Absolument. Est-ce ce que la Bible le dit? Oui monsieur. Paragraphe 110 Paul, un peu après sa résurrection, l'a rencontré sur le chemin de Damas. C'était cette même lumière éclatante qui a rendu Paul aveugle. Et personne n'aimait l'avait vu, sauf Paul. C'était une réalité pour les uns, mais pas pour les autres. Paragraphe 111 Je sais, par une expérience, que ce même Seigneur Jésus Esther a moins de D. 2 pieds 60,96 cm-NDT de là où je me tiens maintenant même. C'est exact. Les visions viennent, et vous voyez ça. Paragraphe 112 Et elle était si éclatante qu'elle l'a rendue aveugle. Il a dit Seigneur. Seigneur. Il a dit pourquoi me persécutes-tu, Paul? Il a dit qui es-tu, Seigneur? Il a dit je suis Jésus, la lumière. Maintenant, je sais que certains prendront des citations comme celle-ci et puis se ranger du côté des unitaires, mais vous devez comprendre que celui qui est retourné à Dieu était Dieu. L'homme de chair, Jésus-Christ, le Fils de Dieu n'est-il pas retourné à Dieu et n'est-il pas devenu une vapeur? Il est sur le trône pour faire l'intercession pour notre confession. Maintenant, je me rends compte qu'il y a quelques citations où Frère Branham paraît dire que l'ange de l'Alliance d'Apocalypse 10, insister quand Jésus va chez les Juifs. Frère Branham dit cela dans la brèche, et j'admets Néhémie pas pénétrer ça. Mais je crois qu'Apocalypse 10, 1-7 traîne du livre du message du temps de la fin, qui étant ouvert, est à donner au messager du septième âge de l'Église. Je crois que, c'est à Dieu qui fait cela. Nous venons de lire là où Frère Branham a appelé celui-ci l'ange de l'Alliance et je vous lirai beaucoup des citations où Frère Branham dit que c'est à Dieu lui-même qui est à l'ange de l'Alliance. Mais je crois aussi qu'il Néhémie dit pas qu'il n'y aura plus de temps jusqu'à l'enlèvement quand il le fera avec les gentils. Peut-être que c'est ce à quoi Frère Branham fait référence à son retour aux Juifs. Je Néhémie le sais pas exactement, mais ce n'est pas pour moi en tant que gentil. Donc cela n'a rien à faire avec mon salut ou le vôtre. Alors, oubliez ça jusqu'à ce que Dieu l'interprète en l'accomplissant. Christ Esther, le mystère de Dieu révélé 28.07-63 paragraphe 629. Ce grand ange de l'Alliance. Celui-là qui était avec Moïse dans le désert. Celui-là qui vint à Paul sur le chemin de Damas. Celui-là même qui a permis que sa photo soit prise avec nous. Le même qui était dans la photo dans le magazine Life l'autre jour. La même parole. Par le même Dieu. Au travers des mêmes canaux. Par la même voix. Par la même promesse, là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Donc, il est Esther ici. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. De ceux qui s'accrochent uniquement à sa parole. Personne n'aimé peut honorer cette parole sans craindre Dieu. Voyez-vous? Mon ange ira devant toi 13.02-53p, 5 et 7 colonnes de feu. Ou l'ange. C'était l'ange de l'Alliance. Je crois que tous les ministres seraient d'accord avec cela. Que c'était l'ange de l'Alliance. Si c'était l'ange de l'Alliance. Alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu le Saint-Esprit. Les conférences 08.06-63p. 87 le jour de la Pentecôte. Cette grande colonne de feu qui avait suivi Israël, ou qu'Israël avait suivi à travers le désert, voyez? Cette grande colonne de feu c'était Dieu, l'ange de l'Alliance, Jésus-Christ. Moïse a estimé que l'opprobre de Christ était un trésor plus grand que l'Égypte. Alors il a abandonné l'Égypte et a suivi Christ. Remarquez, qu'est-ce que Dieu a fait le jour de la Pentecôte? Il prit cette grande colonne de feu et la divisa. C'était lui-même. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, descendirent, semblables à des langues de feu, et se posèrent sur chacun d'eux. Oh! N'aimez voulez-vous pas? Nous devrions être honteux de laisser que nos organisations nous divisent, alors que Dieu s'est lui-même divisé parmi nous, pour que nous puissions être un. À ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Esther, ce que vous entendez, le frère là et la sœur là, Dieu s'est lui-même divisé. Nous n'y sommes jamais divisés, les uns des autres, parce que nous faisons partie de Dieu. Alors, comme il l'a dit, vivez simplement une bonne vie chrétienne et abandonnez toutes les autres choses à Dieu, car il est l'auteur et le consommateur de notre foi, et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Courbons nos têtes dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, septembre 2009. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.